esthétique de la vanité qui a fait tellement florès au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est la tête de mort que les peintres ont beaucoup représenté, associé à des motifs esthétiques de l'éphémérité des choses, hein, comme le sablier. J'ai d'ailleurs l'impression qu'il y a un sablier dans le décor de ce petit boudoir.
Absolument.
De ce petit boudoir que vous avez quitté. Il y a des sabliers, des feuilles séchées, des bulles de savon, des scarabées, des cartes à jouer, des instruments de musique. Voilà tout l'arsenal de la panoplie de la vanité telle que l'entendaient les artistes du XVIIe et du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on parle de vanité quand on désigne les bijoux, les colifichets, qui, en général, représentent des têtes de mort ou des squelettes, et qui rappellent à celui qui les porte que la vie est merveilleuse parce qu'elle est éphémère, et qu'elle est précieuse parce qu'elle ne dure pas, et qu'il faut se jeter à corps perdu dans la jouissance d'exister, parce que ça ne durera pas longtemps, et que, au lieu de croire que la tête de mort est un motif morbide, il faut y voir, au contraire, une grande déclaration d'amour à la vie. La tête de mort nous regarde et nous dit « Je suis ce que tu es, et tu seras un jour ce que je suis ». Ce que je suis, alors il faut entendre ça et se dépêcher de vivre. Ne manquez pas votre unique matinée de printemps, comme disait Jean Kelevitch. Moi, celle que je porte là, c'est représente la tête de mort de Madame de Mortsauf, qui est l'héroïne, vous vous souvenez, du Lys dans la vallée de Balzac. Madame de Mortsauf, qui pendant 20 ans se laisse courtiser par un garçon qui l'aime d'un amour fou, mais comme beaucoup des êtres humains sur cette planète, elle dit « Oh non, demain, non, je ne veux pas », elle refuse, et puis un jour, c'est fini, c'est trop tard. Elle a laissé passer son unique matinée de printemps. Voilà, alors moi, cette tête de mort qui est là, qui me regarde, qui me parle à l'oreille, j'ai eu beaucoup de conversations avec elle, elle me rappelle qu'il faut se dépêcher de vivre. Il y avait une autre chose qui était marquée sur les frontons des cimetières romains. Peut-être que moi, je me le ferai graver sur ma pierre tombale. C'est « Non fui, fui, non sum, non curo ». Je ne fus pas, je fus, je ne suis plus, je m'en fiche. »
Magnifique. On parlait du vanitas vanitatum de l'Ecclésiaste. Vanité, ça rime aussi avec fragilité, légèreté. Et quid de l'orgueil ?
Ben, je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question. C'est pas bien l'orgueil.
Je pense à la Rochefoucauld, c'est une autre citation qui est moins latine. On parle peu quand la vanité ne fait pas parler.
Qui a dit ça ?
La Rochefoucauld.
Oui, si vous voulez.
Maxime.
Oui, non, mais c'est formidable, les Maximes, moi j'adore ça. C'est à la fois. Il faut réfléchir sur la vanité de la Maxime, parce que vous prenez Champfort, La Rochefoucauld, Rivarol, moi je promets qu'on se livre à ce petit défi-là. On trouvera dans les 3-4 moralistes français, vous rajoutez Vauvenargue, on trouvera tout le champ d'expression de la possibilité des considérations philosophiques du monde et leur contraire. C'est ça, c'est la grandeur et la limite de la Maxime. On peut faire tout dire aux Maximes. Alors oui, peut-être que la logorée est peut-être une vanité, je suis bien d'accord. Mais et alors, franchement, moi j'aime la liberté et je trouve que si jamais des êtres trouve dans l'expression orale un bonheur, une hygiène, une sorte d'exercice presque gymnique pour remettre en ordre leurs idées, pour progresser dans leurs pensées, pour savoir même peut-être ordonnancer leurs pensées. Eh bien, pourquoi les empêcherait-on de parler ? Moi, je ne suis opposé à rien, ni au silence, ni au bavardage.
Ah, ça tombe bien que vous prononciez ce mot. C'était aussi peut-être un prétexte pour vous mener vers le mot suivant. Troisième mot, silence.
Oui, ben, on peut dire que je ne le pratique pas beaucoup. Je le tiens ni pour une qualité extrême, ni pour une angoisse. Il me plaît quand il est là, mais je ne le respecte pas suffisamment pour m'abstenir de dire un mot lorsque j'en ai envie. Et puis attention, je distingue le silence du bavardage. L'un n'est pas le contraire de l'autre. Le silence, c'est un état intérieur, profond. Le silence, c'est l'écho de la pensée à l'intérieur de celui qui produit la pensée. Mais vous pouvez faire le silence en vous, tout en continuant à pérorer. Et c'est ce que ne comprennent pas souvent des interlocuteurs qui sont gênés par les grands bavards. Ils ne voient pas que le bavardage, parfois, est une couverture, comme la couverture de l'agent secret. Est une couverture. Quelqu'un rivalise de bons mots, de calembours, de saillies. Quelqu'un aime à exceller dans une espèce d'art oratoire de sophiste logoréique. Et en réalité, il envoie un nuage d'encre, comme les calamars, pour disparaître et se carapater au fond de lui-même, au fond de sa citadelle intérieure, tout en jetant comme ça les mots, en disant n'importe quoi sur la scène des music-halls, ce qui lui permettra de mieux gagner ses jardins intérieurs, où il se livrera là à la véritable méditation, alors que, si vous voulez, le public croira qu'il est en train de faire un numéro de claquette au music-hall de Mexico. En réalité, il est enfermé dans sa cellule de cénobite intérieure, au plus profond de lui-même.
Le silence intérieur. Mais le silence extérieur existe aussi, et vous le côtoyez, qui va avec la contemplation.
Je le côtoie pas forcément, parce que moi j'aime aussi la grande symphonie des éléments. Moi, ce que j'appelle la croisée des transepts élémentaires et paganiques. Par exemple, quand vous êtes au sommet d'une montagne, vous êtes à une croisée de transepts en équilibre entre le ciel et la terre, sur un endroit où vous avez l'impression d'être baigné, traversé de poésie et de liberté, et en même temps vous ne pouvez pas y rester plus de 10 minutes ou d'un quart d'heure parce qu'il fait froid et que vous devez redescendre et que le danger de la mort est davantage dans la descente que dans la montée. J'aime me trouver à ces croisées des transepts-là. Et il n'y a pas de silence, souvent, dans ces hauts lieux du monde, dans ces hauts lieux de vibrations élémentaires du monde. Sur les pieds de la mer que j'ai escaladé ces dernières années, il n'y avait aucun silence, il y avait au contraire le rugissement, parfois aberrant, de violence de la mer sur la terre. Parfois même les coups de boutoir de la houle faisaient vibrer les tours de la haute mer. Et la vibration se communique au corps entier. Vous la sentez trémuler à l'intérieur de vous-même. C'est tout sauf le silence. Mais quelle symphonie superbe. Alors après...
Mieux que des mots?
Non, enfin, ça n'a rien à voir.
Nature contre culture.
Non, mais ça n'a rien à voir. Le langage, qu'est-ce que c'est que langage? C'est pas du tout la tentative de reproduire ce qui a été vécu, ou l'expérience, ou la conscience qu'on a de quelque chose qui a été vécu. C'est pas ça le langage. Le langage, c'est la seule offrande que l'homme peut faire à la beauté du monde. Quand une escalade a été réalisée, quand vous avez passé un bivouac enchanteur dans la forêt, quand vous avez vu le plus beau visage que vous avez rencontré dans votre vie, ou assisté à une scène magnifique d'un déplacement d'animaux sur une montagne, eh bien... Vous ne pouvez rien faire, vous êtes un pauvre spectateur, vous êtes le débiteur insolvable de quelque chose qui vous dépasse, mais vous savez que en tant que vous êtes un être humain qui a été doté par une longue évolution biologique qui a conduit à la descente de votre larynx, dans votre gosier, vous avez été doté de la capacité d'articuler des mots pour faire une offrande. C'est comme quand on dépose une gerbe de fleurs ou quand on jette des fleurs dans la mer pour faire un signe à ceux qui ont disparu, ben vous offrez quelques mots à la beauté du monde. C'est tout ce qu'on peut faire.
J'entends que vous conviez un vocabulaire mystique, offrande, un petit peu. Tout à l'heure, c'était croisé, évidemment, ça rappelle la croix. Ça me permet d'aller vers le dernier mot, qui est le mot prière. La prière, selon vous?
Oui, alors moi je prie, je ne prie pas autrement qu'en faisant don de ma personne à la beauté du monde par les grandes marches intercontinentales, les bivouacs sous la lune, les nages éperdues dans les chenaux des mers australes pour atteindre un écueil, un stack ou un pilier de la mer. Pour moi, c'est des prières. D'abord, je ne mets pas de voûte de pierre, hein, fût-elle une croisée d'ogive ou un arc de plein cintre, entre moi et le ciel. Je préfère escalader un pilier de roche. Et pour moi, il y a dans le geste d'équilibre du grimpeur le danger qui est vécu. Moi, je suis un alpiniste amateur, mais je suis souvent dans le vide en train de me déplacer. Et j'y vois une forme de liturgie. Ça peut évidemment... j'imagine que beaucoup de spectateurs, de téléspectateurs vont être effarés par cette espèce de logorée qui peut sembler très légèrement une bouillie pseudo... comment appelait-on ça autrefois ? Nouvel âge. Peut-être, mais je l'éprouve profondément. Cette impression que par mon geste, qui consiste à ne faire que passer pour rejoindre des hauts lieux de beauté du monde, j'offre à la splendeur une forme de prière. Voilà. Alors, elle est hors du langage. Ce n'est pas une prière de mots. Et alors, s'il y avait une prière qui me plaisait dans le corpus déjà écrit... dans le corpus de texte, ce serait les psaumes. Parce que je vois dans le psaume le cri, alors souvent la lamentation, le lamento éperdument angoissé, névrotique parfois, je vois parfois le cri d'amour devant la vibration de beauté du monde. Le psaume me plaît, et s'il s'agissait d'un geste, ce serait la libation. La libation antique, alors là on revient au temps hellénistique, la libation de vin par exemple ou d'alcool versée sur la terre. Voilà, mais dire des psaumes en renversant un peu de vin, tout en avant d'aller escalader un pilier de la mer, me semble déjà une très belle profession de foi.
Pour filer la métaphore et pour reparler de vos ascensions, vous qui gravissiez les toits d'église notamment, Notre-Dame, plusieurs fois, vous vous en prenez donc au stack désormais encore plus âpre, plus divin aussi, plus proche des cieux.
C'est-à-dire que ce sont des piliers différents.
Une transcendance brute en une ligne directe avec Dieu.
Peut-être, vous avez raison. Il y a une brutalité dans le stack qui n'existe pas dans la cathédrale gothique. Puisque la cathédrale gothique est déjà une forme de proposition, de production. Enfin, comment appelle-t-on ça ? C'est pas une interface, mais c'est déjà une construction, une construction de discours, un récit que l'homme met entre lui et le ciel. Tandis que le pied de la mer, la grande aiguille de rocher devant des côtes battues par les vents, c'est une espèce d'architecture primitive, même élémentaire. Ça n'est donc pas tout à fait le même ordre de récollection intérieure. Quand on grimpe un pilier en risquant la glissade mortelle, c'est une liturgie très brutale, très rapide. C'est pour ça que je l'appelle païenne. Mais qui est finalement pas moins noble que le moment de récollection qu'on peut vivre sous une voûte gothique. Et moi, je vais vous dire, peut-être ça va vous choquer, mais je ne fais pas beaucoup de différence entre ce que je vivais à la croisée des transepts dans les cathédrales gothiques et ce que je vivais sur les stacks et les piliers de la mer. À chaque fois, c'est tout ce qui peut réussir à m'arracher un peu à moi-même et à me laisser penser que je ne peux pas me contenter uniquement de répondre à mes intérêts et à mes besoins immédiats.
À vous laisser penser qu'il y a un créateur ?
Oh ben, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis absolument. Écoutez, moi, j'ai pas la profondeur suffisante pour répondre à ces questions. Je cherche encore. Je crois au mouvement. Étant un partisan du mouvement, je suis un partisan de l'errance. Aimant le mouvement, je préfère les questions aux réponses. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre question, mais je ne vous remercierai pas d'attendre une réponse. Je la cherche encore. Réinvitez-moi dans 15 ans. Peut-être aurais-je trouvé. Pour l'instant, j'ai.
Vous aviez déjà répondu foi s'était éteinte. Donc j'ai absolument, comme on avait éteint la lumière, ça tombe bien, on essaye de la rallumer un petit peu ici, lumière intérieure, mais cette question du divin, elle se pose à tout homme.
Non, mais bien sûr, mais je vais vous dire pourquoi. Pour moi, la question ne se pose pas dans la mesure où, si vous me la posez, c'est que la manière dont vous me la posez indique que vous avez déjà, vous attendez un type de réponse. Parce que si vous dites un créateur, vous laissez penser que nous sommes une création et qu'il y a donc une distance entre le créateur et sa création, entre le sujet et l'objet. Et qu'il y aurait donc un Dieu qui serait un grand ordonnateur de quelque chose dont nous sommes le produit. Moi, je ne peux pas répondre à votre question. Je veux dire, la pâte à modeler ne peut pas répondre sur celui qui est en train de la pétrir. Vous interrogez, quand vous allez au Louvre, vous ne demandez pas à la statue si elle croit à Michel-Ange. Moi, je n'en sais rien. Si jamais je ne suis qu'une marionnette animée par Dieu le Père, à quoi bon me poser la question? Finalement, ni la réponse ni la question a la moindre raison d'être. Si jamais je vous réponds avec sincérité, je préfère me dire que la foi consiste à essayer de réprimer, de comprimer au maximum la distance qu'il peut y avoir entre une créature et son créateur. Je vois pas qu'il puisse y avoir une séparation. Ça me semble aberrant. Alors, dans ce cas-là, si je considère qu'il n'y a pas de séparation entre le créateur et sa créature, bien je dirais que ça va vous paraître très banal et ordinaire, que l'un et l'autre sont mêlés, et que Dieu, c'est la fusis des Grecs, la grande émanation de puissance de la nature. Alors là, oui, d'accord, je veux bien croire, quand je suis en train de nager dans une mer des îles Féroé avec des orques autour de moi et d'essayer d'atteindre le pied d'un pilastre énorme couvert de mousse, couronné d'oiseaux lugubres et surplombé de falaises de 500 mètres de haut qui s'écroulent dans la mer, bien sûr que là je suis dans une symphonie et que je n'imagine pas du tout qu'il puisse y avoir un créateur extérieur à cette espèce de grand opéra vivant dans lequel je patauge, parce que j'ai l'impression que le créateur c'est l'opéra. Dieu, c'est-à-dire la nature, comme disait l'autre, qui a tellement de succès en ce moment.
Vous qui étiez en quête de transcendance, vous nous délivrez un message d'immanence.
Oui, bien sûr.
Recevons avec beaucoup de joie. Merci beaucoup, Sylvain Tesson. Je reviens auprès de vous pour la conclusion. Je reviens. Sylvain Tesson, je suis à nouveau en face de vous, de façon tangible.
Voilà, vous êtes
vous préférez.
Donc, fallait espérer,
c'est ça. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience?
Quoi, votre retour? J'ai été exaucé.
Cette expérience autour de ces quatre mots, est-ce qu'il y en a un qui vous a davantage plu, intéressé?
Je vais vous dire sans aucune fausse modestie, j'ai été consterné par ma capacité logorique à parler sans réussir à interrompre en moi ce que Roland Barthes appelait la pulsion parlante, c'est-à-dire le grand déversoir. Mon Dieu. Le mot que j'ai préféré, auquel j'ai préféré réfléchir, c'était le mot de nature.
Nature, oui.
Oui, parce que de celui-là découle, pour moi, qui suis finalement dans le canon antique, découle la culture. Et la conversation entre la nature et ce qu'on en dit, la culture et sa racine dans la nature, me plaît.
Et vous nous avez laissé entendre votre silence intérieur.
Oui, ça je crois beaucoup.
En cette lumière intérieure.
Oui, moi j'aime le silence du calamar, c'est-à-dire le calamar jette de l'encre et disparaît derrière le nuage, à reculons. Incertitude, ô mes délices, vous et moi nous nous en allons, comme s'en vont les écrevisses, à reculons, à reculons. Ça c'est Apollinaire, Et moi, j'aime bien l'écrevisse. Parce que, elle disparaît. Tout en...
Vous verriez dans quel animal, vous ?
Comment ?
Dans quel élément de la nature ? On parlait d'anthropomorphisme tout à l'heure.
Ah ben, c'est le lézard, moi, qui me...
C'est le lézard.
Oui, qui me semble l'animal... D'abord, il a gouverné la Terre, hein, les sauriens, avant la grande extinction, la deuxième, je crois, il y a 75 millions d'années, commandait la Terre, il gouvernait. Alors, il y a eu...
Le lézard, animal à sang-froid.
Oui, et l'animal... Étonnant. Oui, à sang-froid, mais dont le dieu est le soleil. Alors, parce que
oui,
ça,
oui.
J'en ai pas parlé,
oui,
mais moi, je suis en fait héliophile, enfin, comment on appelle ça, héliolâtre.
Oui.
Oui, je suis pas un lucifobe. Je suis un partisan du soleil. Voilà un dieu tangible. On sait qu'il est là, il revient tous les matins, normalement. On peut l'espérer. Le matin, on est exaucé, et tout, du brin d'herbe à la baleine... du cloporte à l'aigle, tire son existence de l'assimilation des photons par son organisme et son appareil biologique. C'est quand même pas mal. Franchement, prions le soleil, vous voyez, moi, si jamais je devais choisir
un culte païen.
Non, bon. Zoroastrien, ouais, Mazdéen, et puis après tout, pardon, mais c'était le début, la répétition générale pour le monothéisme, tout de même. Ne soyons pas complètement...
Le dieu rat.
Comment ? Oui, le dieu rat, par exemple. Non, il faut pas totalement méconsidérer les adorateurs du soleil. Voilà, bon, je parle pas des estivants qui s'enduisent de crème bronzante, qui sont devenus des formes.
Ça sera une autre émission.
C'est un genre de rituel aussi, le naturiste du Cap d'Agde qui se livre en pâture à son dieu.
Oui.
C'est pas de celui-là que je parle, moi, mais plutôt de celui
que nous avons compris.
Qui voit dans le ruissellement de photons la
en tout cas, c'est une belle conclusion.
Oui, la réception de l'énergie solaire.
Ouais.
Vous voyez, et là, on va sortir et il sera là.
Grâce à vous, nous sommes allés de la lumière intérieure au grand soleil. Et merci infiniment, Sylvain Tesson. Merci pour vos piliers de la mer que je vous recommande de lire chez Albin Michel et qui nous permettent de gravir des rochers, des monticules vertigineux et qui mènent à une réflexion intérieure également. Merci beaucoup.
Merci Marie.
Merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, si vous voulez revoir l'émission, vous connaissez l'adresse ktotv.com. À bientôt. Bonne semaine.
Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Mozart écrivit la messe du couronnement en 1779, à l'âge de 23 ans, sur une commande de l'archevêque de Salzbourg, Colloredo, qu'il détestait. Mais en l'honneur de la fête commémorative du couronnement de la Vierge miraculeuse du sanctuaire de Mariaplein. La messe connut immédiatement un grand succès à sa création à la cathédrale de Salzbourg et fut redonnée au couronnement de Léopold II, roi de Bohême à Prague en 1791, puis de François II de Bohême en 1792, ce neveu de Marie-Antoinette, futur François Ier, empereur d'Autriche. Ample composition pour soliste, chœur et orchestre, la messe est, avec la grande messe en ut, la plus célèbre de toutes les messes composées par Mozart. Il y déploie une palette virtuose, faisant même de l'Agnus Dei la mélodie originale de l'air Dove sono de la comtesse dans Les noces de Figaro. Cette œuvre magnifique, où alterne chœur et soliste, déploie, avec l'aide de la fanfare des cuivres, le brillant et le faste d'un grandiose final d'opéra. Je vous laisse donc en compagnie de Jean-Christophe Spinozzi, il dirige le chœur du Palais de la musique catalane de Barcelone et son ensemble Mateus dans le cadre prestigieux de la chapelle royale du château de Versailles. Bon concert et à tout à l'heure.